Petrus Borel, Champavert, Comte Zimoreau, Dina la belle juive, Lyon, en exergue. Lecteur, sans hyperbole, elle était vraiment belle, très belle, c'est-à-dire elle paraissait telle, et c'est la même chose. Il suffit que les yeux soient trompés, et toujours ils le sont quand on aime. Le bonheur qui nous vient d'un mensonge est le même que s'il est éprouvé par l'algèbre. Être heureux, qu'est-ce, si l'on le croit ? Théophile Gautier. Rossa mystica, turis davidica, turis eburnea, domus aurea, foederis arca, ianua coeli, stella matutina, regina virginum, l'Italie de la Sainte Vierge. Dépêche-toi de céder, tu auras beau faire, mignonne, c'est reculer pour mieux sauter. Oh, la matine mortelle, alors calmons-nous, mademoiselle, sacre. Jacob, vent, vertu et tempérament. Là où il n'y a point de haie, l'héritage sera gasté, et là où il n'y a point de femme, l'indigent gémit. À qui croit celui qui n'a point de nid ? La Bible. Le couvre-feu sonnait, les ponts-levis se hissaient, quelques bourgeoises attardées s'empressaient. Lyon la riche, assise entre ses deux fleuves, s'endormait, ceinte dans ses murailles comme un guerrier dans son armure de fer. Par un quai étroit et désert, deux hommes, un jouvenceau, un vieillard, allaient précédés d'un laquais portant un falot. Quand je dis un quai, je ne suis pas exact, car en ces vieux temps, clos par une double haie de maisons, la plupart des quais étaient semblables à des rues. Les soubassements des masures qui ourlaient la rivière trempaient dans l'eau. Suspendus sur pilotis ou fondés dans la vase, ces demeures amphibies avaient pignon sur voie et pignon se mirant au flot. Et par le bas, un escalier de pierre, rampant et profond, qui descendait à l'eau comme une citerne espagnole, tantôt séparé du courant par un détroit de terre, tantôt inondé jusqu'à mi-degré. De combien de crimes ces pierres ont dû être témoins ? Que de meurtres ont dû faire tressaillir ces murailles ? Enfer ! Avec quelle aisance on se délivrait d'un ennemi, d'un rival, d'une femme abusée, d'un père vivace ? On le poussait du haut de la montée, on ouvrait un châssis, tout était fait. Au surplus, on entendait le bruit d'un corps tombant dans les flots, dont le roulis étouffait le râlement. Oh ! Si ces ruines confidentes parlaient, le jeune, enveloppé d'un manteau blanchâtre, abrité sous un feutre abattu sur ses moustaches, était long et svelte. À son allure cavalière et minaudée, au cliquetis de ses éperons, à sa flamberge retroussant l'orée de son mancelet, on flaira aisément le gentilhomme. Le vieux, enchevêtré dans sa robe noire, coiffé d'un mortier noir, juché sur sa tignasse grisonnante, et parchemins au poing, exhalait à une portée d'arquebuse le docteur de la loi. Capitoulou, conseiller au Parlement, procureur, juge ou tabellien, cet oiseau de proie rompit brusquement le silence. « Seigneur Aymar, croissa-t-il sans indiscrétion, la mineure sur laquelle je vais instrumenter, si j'en préjuge par votre goût exquis, est belle, n'est-ce pas ? Oh, si elle est belle, maître, je l'avoue. Cette question me froisse, il me semble que quiconque doit avoir la préscience de sa beauté. Oh, Madina, on me demande si tu es belle. Maître, elle est plus belle que la plus belle sarrasine du Soudan. C'est une tourelle d'ivoire, c'est une buire d'argent. Au moins, seigneur Aymar, vous n'exigerez point, j'espère, la préscience de sa richesse. A-t-elle de l'or ? Vous demandez si l'or a de l'or, si le soleil est radieux. Oui, maître, elle a assez d'or pour écraser sous le poids de sa note la plus forte à quenée. Vous êtes jeune, seigneur Aymar. Qui peut donc vous pousser si tôt aux épousailles? Croyez de ma prudomie, il faut user dans les guérets le feu du poulain emporté. Il faut courir et beaucoup faire par le monde avant de cloîtrer son amour en une femme. C'est chose grave que d'engager foi éternelle. Tenez, moi, j'entrai dans la confrérie à 40 ans, c'est par Dieu le bel âge. On commence à redescendre. La vie, il faut un appui, il faut au pèlerin qui se voûte un bâton, une hôtesse qui le soigne. On choisit alors femme douce et bonne, ayant un patrimoine alléchant. C'est ainsi que j'ai fait, on ne saurait mieux faire. La jeunesse, voyez-vous, doit se passer dans l'orage et le bruit. Quand je songe à ma vie de Paris, à ma vie de 20 ans, de clerc de la basoche. Aussi fis-je époque, y suis-je resté en proverbe, y serge d'air pour supporter le temps. On dit encore au palais du temps joyeux de Bonaventure Chastelard, levant son mortier s'inclinant, le jocon de Tabellion ricanait et croassait, tout triomphant de ses vieilles folies, peut-être de ses turpitudes. Sans vous heurter, maître Bonaventure Chastelard, vous me permettrez de vous dire que vos conseils me semblent peu nobles, mais je puis vous affirmer que, quant à moi, ils ne seront point pernicieux.
Jeune homme, vous êtes péremptoire. Pour cela, je ne me crois point débarré, et je m'en réfère à la sagesse de Pierre Charron, parisien, docteur ès droit. Le Saint-Sacrement du mariage n'est pas chose valable en soi. Écoutez, voici au juste ce qu'il en dit, un certain malicieux chapitre de ces 3 livres de sagesse, dont vie durante j'ai fait bonne raison. Combien que l'état de mariage soit comme la fontaine de la société humaine, prima societas in coniugio est, quod principium urbis seminarium rei publicae, si est-ce qu'il est désestimé et décrié par plusieurs grands personnages qui l'ont jugé indigne de gens de cœur et d'esprit et ont dressé ses objets contre lui. Son lien est une injuste et dure captivité. Que s'il advient d'avoir mal rencontré, s'être mécompté au choix et au marché, et qu'on ait pris plus d'or que de chair, on demeure misérable toute sa vie. Quelle iniquité pourrait être plus grande que, pour une heure de folle marché, pour une faute faite sans malice et par mégarde, et bien souvent pour obéir, suivre l'avis d'autrui, on soit obligé à une peine perpétuelle? Il vaudrait mieux se mettre la corde au cou et se jeter en la mer, la tête la première, pour finir ses jours bientôt, que de souffrir sans cesse à son côté la tempête d'une rage et manie, d'une bêtise opiniâtre et autres misérables conditions. Celui qui a inventé le nœud du mariage a trouvé un bel et spécieux expédient pour se venger des humains, une chausse-trappe ou un filet pour attraper les bêtes, et puis les faire languir à petit feu. Le mariage est une corruption et un abattardissement des bons et rares esprits. D'autant que les mignardises de la partie que l'on aime, l'affection des enfants, le soin de la maison et l'avancement de la famille relâchent, détrempent, ramollissent la vigueur du plus généreux esprit qui puisse être. Témoin Samson, Salomon, Marc-Antoine. Au pis-aller, il ne faudrait marier que ceux qui ont plus de viande que d'âme, leur bailler la charge des choses petites et basses, selon leur portée. Mais ceux qui, faibles de corps, ont l'esprit grand, n'est-ce pas grand dommage de les enfermer et garrotter à la chair comme l'ont fait les bestiaux à l'étable? L'utile peut bien être du côté du mariage, mais l'honnêteté est de l'autre. Il empêche de voyager parmi le monde, soit pour apprendre à se faire sage, ou pour enseigner les autres à l'être et publier ce qu'on sait. Il a poltronné et accroupi les bons esprits au giron d'une femme et autour des petits-enfants. Oh, assez, assez, maître Chasselas, assez, s'il vous plaît. C'est du tout un grand mal. Assez, assez, vous dis-je, maître Chasselas, vous m'étourdissez. Finissez cette capucinade. Humeur débauchée, âme turbulente et détraquée, de son point propre à ce marché. Mais assez, assez, maître, je vous prie, maudite loquacité. Ne vous en portez point, bon cavalier. Au moins, vous ne m'accuseriez pas, moi, Tabellion, moi, notaire royal, de prêcher pour mon saint. Cela est bel et bon, peut-être même orthodoxe, maître Bonaventure Chastelard, mais non pas de règle absolue. Vous disiez tantôt qu'il faut jeter son feu, d'accord, mais celui dont l'âme est vive, chaleureuse, aimante, qui fuit les tavernes, qui hait les dés, les ribardes, pour celui-là, une femme aimée, avenante, un intérieur paisible, une troupe d'enfantelets, c'est le bonheur. Je suis bouillant, mais pur. Mon cœur ardent a besoin d'étreindre quelque être de son amour chaste et tranquille. J'avais d'abord donné cet amour aux arts libéraux. Je voulais dépenser avec eux mon activité et leur consacrer ma vigueur. Mais mon père, qui tranche du châtelain, qui nomme les artistes gueux et les artisans gueusards, a brisé mon chevalet et brûlé mes études sur Philibert de Lorne. Oisive, ennuyée, mon âme est sortie errante comme la colombe de l'arche, cherchant un rameau vert pour se poser. Elle a trouvé un mythe florissant, elle s'y pose. S'il est des Dalilas qui tondent la force de leurs amants et les vendent, il en est d'autres aussi qui les réconfortent et qui épandent autour d'eux un aromate de bonheur et qui versent du benjoin sur leurs maux. Oh, oh, Seigneur Emma, que de roses paraboles! L'amour vous met en délire, et nous battons la campagne. Or, voilà longtemps que nous cheminons, n'adviendrons-nous pas bientôt? Par Saint-Polycarpe, où diable me conduisez-vous? À votre tour, ne vous impatientez point, Chastelard. Nous approchons fort. La juiverie doit être un peu éloignée maintenant.
La juiverie?
Oui, la juiverie où nous sommes attendus. Oh, votre futur est donc une hérétique, une juiferesse? Une israélite, maître.
Jésus-Dieu, la mesure est comble, j'espère. Et vous voudriez m'entraîner à 7 heures chez ces mécréants, merci. Voudriez-vous me faire présider un Sanhédrin ou chômer un sabbat, merci. Je n'ai nulle envie de faire commerce avec ces damnés. C'est une conspiration pour me faire endosser la chemise soufrée et me faire roussir en place des terreaux par maître Cardifex, rôtisseur de Brucolac. Oh, merci!
Mais que craignez-vous, Bonaventure? Vous êtes en la compagnie d'un féal gentilhomme. Il ne s'agit ni de sabbat ni de sanhédrin, il s'agit simplement de dresser un contrat.
Mais enfin, me prenez-vous pour le Tabellion de l'enfer? Vous pourriez, ce me semble, faire vos pactes de vous-même. Allez, bonsoir.
Ah, tu vas me suivre, te dis-je, ou sinon je te pourfends et te cloue à cette porte comme un chat-huant. Butor, agnier en pourpoint de docteur, tu vas me suivre et faire ton devoir, puis après je te jetterai cette bourse à la face et ma bottine en croupe. Marche, marche!
Cavalier, je ferai tout votre bon plaisir, mais remettez votre flamberge en son lieu. Le bonhomme grelottait de peur.
Bon, je vous supplie, calmez-vous, je suis votre serviteur le plus humble.
Cafard!
Aymar remit son Olinde au fourreau, et, silencieux, tous deux, ils reprirent leur route. Après un moment de marche, Bonaventure Chastelard, licencié ce bavarderie, rompit l'abstinence pour la seconde fois.
Vous me permettez, Seigneur Aymar de Rochegude,
de vous manifester mon étonnement sur votre alliance avec une hérétique. En ma qualité de prud'homme et de Robin, vous me permettrez de vous dire qu'il est méséant et dangereux d'épouser une juiferesse. Peu juif toi-même. Juif moi-même. Oui, l'agneau que vous êtes. Mais qu'êtes-vous donc, sinon un pauvre juif? Moi, Bonaventure Chastelard, fils légitime de Claude Chastelard, imprimeur privilégié de l'église primatiale de Lyon et de Dame Année Pétronille Maguenone de Saint-Marcellin, ma mère, que Dieu les garde en son giron, et frère puiné de Pantaléon Chastelard, chamarier du chapitre de Saint-Paul, moi, je suis un hébreu, un hérétique, allons donc, cavalier, votre tête galope. Mais moins qu'un juif fidèle, docteur. Voyez la source. Ne sommes-nous pas tous païens ou juifs, réformés, retapés, hébreux huguenots, de la secte de Jésus de Nazareth, un fidèle déserteur, renégat de la loi mosaïque, du sabinisme, du sadducéisme, du polythéisme, pour le protestantisme du paysan de Bethléem. Monstrueux que nous sommes, nous voudrions raser la roche d'où découle notre torrent. Bâtards, nous voudrions égorger notre aïeul. Nous brûlons les Hébreux et nous baisons leurs livres. Stupidité. Nous les brûlons parce qu'ils sont fidèles à leur loi, à leur Dieu, et nous chantons autour de leur bûcher les psaumes de leur roi David, poussant jusqu'aux cieux des Hosanna in excelsis, mascarade sanglante. N'arrivons-nous pas bientôt, Seigneur Aymar? Bientôt. Comment, par Belzébuth, prince des démons, comment, diantre, avez-vous déniché cette hirondelle?
Le hasard.
Le hasard, il...
À quoi la canzone de l'agneau blanc? Ma colombe, qui est espertuit de la pierre, escachette de la muraille, montre-toi, ma sasse, que ta voix sonne en mes oreilles, car ta voix est douce et ta face est belle. La Bible.
Oui, tous les anges descendaient de Montélimar, demeure de mon père et ma patrie, pour aller par désœuvrement passer quelque chose à Avignon. Un soir, que je me promenais mon ennui sur le rempart, fuyant le monde et le bruit, je fus involontairement attiré par le charme secret de l'harmonie, et je tombai, éveillé en sursaut, au milieu de la foule réunie au Boulingrin où s'assemblaient tous les soirs l'élite de la ville, les ménétriers et joueurs de flûte, de mandoline, de vielle, les sonneurs de trompe et de bucaxine, pour faire des concerts de voix et d'instruments. Que de soirées délicieuses j'y passais sous ce firmament outre-mer moucheté d'étoiles, à la brise fraîche et sereine qui jouait et parfumait mélodieuse sur nos têtes, bercés, ravis par des chœurs de voix humaines et de musique céleste. Oh, surtout, quel transport! Alors qu'on entonnait quelques chants glorieux, quelques romances en suave langue provençale, ou quand, dans les solennités religieuses, les jours saints, on chantait de la musique sacrée, ces hymnes spirituels, ces proses graves, funèbres, ces psaumes majestueux, ce stabat langoureux et sonore, ce sépulcral dies irae, qui, quoique veuf, les orgues du mystère de la cathédrale nous faisaient frissonner d'épouvante, comme la contemplation solitaire et nocturne de l'immensité. Ainsi que dans un carrousel, les demoiselles et les dames étaient assises en cercle aux places d'honneur. Leurs beaux époux et leurs amants, postés derrière elles, tout entiers aux petits soins, échangeaient force courtoisie, épiant le moindre geste du doigt, la moindre œillade, signe de satisfaction et de plaisir, pour applaudir galamment le motet ou le ménétrier qui charmait leur ami. Or, ce soir-là,
Je remarquais, près de moi, isolé des dames à l'écart de la foule, penchée sur l'épaule d'un vieillard, une toute jeune fille. Je me tournais, surpris, et la contemplais. Dès lors, la musique ne me toucha plus. Je ne l'entendis plus, peut-être ne venait-elle plus jusqu'à moi. La pensée de sa beauté l'exorcisait. Je ne saurais que dire de mon ravissement. Fixe, ainsi qu'une statue dont la poitrine de marbre battrait, je l'étudiais. Elle m'apparaissait comme une vierge dans une gloire, une vierge peinte par Barthélemy Murillo ou Diego de Silva Velázquez. Sa belle figure, dans ma mémoire, n'avait point de sœur. Elle ne semblait ni aux belles filles de mes montagnes, ni aux ravissantes femmes d'Arles, ni aux vives marseillaises, ni aux lyonnaises jolies, ni aux demoiselles de Paris, ni aux blondes Barbranson. C'était quelque chose d'oriental, un destin, de célestin, d'inconnu. Des cheveux roux, des traits nobles, longs, gracieux, un teint blanc purpurin, un doux regard, voilé sous une paupière diaphane, des lèvres de grenat. Son costume était simple, mais des joyaux étincelants alternaient ses cheveux, son front, ses oreilles, son cou, ses doigts, et trahissaient sa fortune. Le vieillard, à tête nue, à barbe blanchie, assis auprès d'elle, appuyé sur un bâton, paraissait assoupi. Ainsi, depuis longtemps, je la considérais, quand par hasard elle égara sur moi ses beaux yeux pères. Ses deux prunelles, comme deux balles parties d'un arquebuse, me frappèrent droit au cœur. Pour la première fois, à la vue d'une femme, je ressentais pareille commotion. Mes jambes fléchissaient voluptueusement. Je rougissais, je blêmissais, j'étais glacé et brûlant. Toute ma vie, toute mon âme, tout mon sang avait reflué dans mon cœur bouleversé. Mes yeux, laissés à leur volonté, biglaient et semblaient regarder dans ma poitrine. Pour la première fois, je subissais le charme d'une femme. Pour la première fois, je me sentis subjugué. Pour la première fois, l'amour que j'ignorais, que je bravais, entrait chez moi. Mais comme un tonnerre qui se rue dans un colombier sans retrouver l'issue. L'amour non plus chez moi ne l'a pas retrouvé l'issue. Ma passion sera éternelle. Revenu à moi, ayant retrempé ma hardiesse, je profitais du repos des ménétriers et m'approchant du vieillard. « Messire, lui dis-je en le saluant révérencieusement, vous permettrez de trouver mes séants à un cavalier, qu'une aussi noble demoiselle que celle que voici soit à l'écart de la sérénade dont elle ferait la gloire. Si vous le désirez, messire, je vais faire ouvrir un passage à la foule pour que vous puissiez l'accompagner sans méfait jusqu'au cercle des dames. »
« Monsieur, je ne puis profiter de votre offre aimable et vous dis merci de tout cœur. »«
Vous êtes excellent, messire, répliquai-je, mais mademoiselle aussi loin ne peut bien entendre la sérénade. » À ce moment, cette noble fille, vermeille, s'inclina pour me remercier. Je me troublais et balbutiais quelques syllabes.
« Monsieur !» me dit alors le vieillard. « Dina, ma fille, est bien sensible à votre politesse. Je vous remercie franchement, mais cela pour nous est impossible. Nous sommes d'une ruche étrangère, et cette abeille ne serait sans avarie se mêler à ce guépier. »
Je me retirai tout leste et joyeux intérieurement de mon effronterie. Mais je m'éloignais seulement de quelques pas, guettant et épiant pour les suivre à leur départ, jusqu'à leur demeure, afin d'obtenir des renseignements sur cette belle inconnue, de la voir à son balcon en passant, de pénétrer jusqu'à elle ou de lui faire parvenir un message. Je me berçais de ces flatteurs pensées,
J'arrangeais tout cela dans ma tête. Je savais sa demeure. Je passais sous sa croisée. Elle y était penchée, et je la saluais d'un sourire et du chapeau. J'épiais sa sortie. Je gagnais sa duègne. Ou bien, je la suivais à l'église et, comme par hasard, je la rencontrais au bénitier. J'offrais de l'eau bénite du bout de mon doigt, son joli doigt, qu'il apportait à son joli front, que bientôt mes lèvres devraient toucher aussi. J'arrangeais tout cela, la déclaration de mon amour. Elle me donnait le sien. J'étais reçu chez son père. Ainsi je nageais dans un lac de bonheur. J'étais éperdu dans ses illusions. Cependant, parfois, j'étais tourmenté par le sens mystérieux de ces paroles que m'avait dites le vieillard. « Nous sommes d'une ruche étrangère et cette abeille ne saurait sans avanie se mêler à ce guêpier. » Je faisais mille conjectures qui, tour à tour, me semblaient bien trouvées. De minute en minute, je les métamorphosais. Je leur donnais pour patrie l'Espagne, la Bohême, la Bosnie, Venise, Sérigo. J'en faisais des hospodards, des boyards, des princes voyageurs d'incognito, des proscrits. Puis toutes ces interprétations me semblaient folles. En effet, tout cela n'était pas raison pour se tenir à l'écart et craindre d'une avanie. Puis le nom de Dina me persécutait. Ce nom ne m'était pas inconnu. J'avais un souvenir vague de l'avoir ouï, quand et où, je ne pouvais pas me le remembrer. Un bruit lointain qui me fit soubresauter fustigea toutes ces rêveries. Je me trouvais debout, appuyé contre une palissade, seul sur le rempart désert. La sérénade finie, la foule s'était écoulée. Je heurtais du pied et je maudis ma maladroite distraction. Tout mon bonheur s'évanouissait, plus d'espoir de la revoir. Ma passion née ex abrupto tombait de même. Ah, c'est bien grande souffrance que la rencontre d'un être sympathique qui vous capte, qui vous incline à lui. On l'a vu au promenoir, au bal, en voyage, à l'église. On lui a jeté un regard, on a reçu une œillade, on l'a touché de la main, on a causé à la dérobée, on était pris, ravi, enveloppé, on est déjà façonné un avenir, c'est déjà de l'amour enraciné. Le temps de pousser un soupir ou de regarder le ciel, cet être s'est envolé comme un oiseau, l'apparition s'est éteinte, et le reste atterré, anéanti par la commotion. Pour moi, c'est de penser qu'on ne reverra jamais cet éclair qui nous a éblouis, cette femme, amie spontanée, notre pierre de touche, que deux existences, faites l'une pour l'autre, pour être adouées, pour être heureuses ensemble, en cette vie et dans l'éternité, sont à jamais écartées et se traîneront peut-être malheureuses, sans plus retrouver jamais d'âme qui leur agrée, d'esprit et de cœur à leur taille. Ah, pour moi, cette pensée est profondément douloureuse. J'errai longtemps sur le rempart, invectivant contre ma fatale chance ou la dérision du sort, qui m'avait, archer infernal, décoché une femme au cœur pour m'y faire une plaie mortelle. J'errais et m'emplissais de solitude et de calme, troublé souvent par l'image de Dina, qui repassait devant moi, qui descendait sur mon front et me replongeait dans de tumultueuses tempêtes, dans d'ascétiques ravissements, dans une fièvre délirante de volupté. À l'instant où je rentrais chez moi, l'horloge tinta une heure du matin. Dans mon insomnie, pourpensant à toutes ces choses, je me rappelais que le nom de Dina, qui me semblait point inconnu, était dans la Sainte Bible. Je rallumai ma lampe, j'ouvris ma sainte Bible, toujours placée sur ma table, auprès de mon lit, et feuilletant la Genèse, je trouvai au chapitre 34 Dinah enlevée par Sichem. 1. Or Dinah, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. 2. Et Sichem, fils des morts, héritier prince du pays, la vit et l'enleva et coucha avec elle et la força, etc., etc. Oh, cette découverte me remplit de joie, et j'en conjecturai que, portant un nom hébraïque, cette fille devait être hébraïque. Ces traits orientaux corroboraient cette opinion, et par là j'expliquai le sens énigmatique des paroles que m'avait dites son vieux père. Réconforté par cette découverte, enhardi par ce léger succès, je repris espoir de découvrir sa retraite, et je jurai gravement de tout oser pour arriver à bonne fin. Dès le matin jour, je parcourus la ville. Présumant qu'il devait être des étrangers en passage, je commençai par visiter les hôtelleries. J'allai de la Croix d'Or au Saint-Esprit, de l'Écu de France aux Trois-Maures, du Lion d'Argent à Saint-Vidal, manquèrent partout aux autres s'ils ne se trouvaient point en leur logis un vieillard à barbe blanche accompagné de sa jeune fille nommée Dinah. Partout, je ne reçus que des réponses négatives. J'allais trouver le rabbin sans plus de succès. Alors, sans me décourager, je rôdais par la ville. J'allais aux promenoirs, aux remparts, sur les places, aux églises, à la synagogue. Je ne manquais aucune sérénade et je visitais les environs. Vainement, je n'obtins pas le plus léger indice. Après 15 jours de recherches assidues et pénibles, je renonçai. L'activité m'avait soutenu. Je tombais soudain dans l'ennui et l'abattement. Je ne sortais plus, je restais alité une partie du jour, ma sainte Bible ouverte près de moi, et de temps en temps, je relisais, je baisais la page où brillait le nom de Dinah. Avignon m'était devenu insipide. Je le haïssais, je haïssais tout. Tout me semblait puant ou fade, et le néant venait toujours s'interposer entre le monde et moi. Je caressais l'idée de mon anéantissement, idée que j'avais toujours portée en croupe. Ma bonne hôtesse me conseilla d'aller passer quelques semaines chez mon père, afin de me distraire et de sortir de ce malaise que cette brave femme attribuait au renouveau de la saison. Je retournai donc à Montélimar, l'ennui m'y suivit. Depuis longtemps, j'avais le désir de visiter la belle cité de Lyon. Je partis inopinément. Lugal remeno lalo. Je te prendrai et t'amènerai en la maison de ma mère et en la chambre de celle qui m'a engendré. Il est que tu m'enseigneras et je te donnerai à boire du vin confit et du moût de mes pommes de grenade. La Bible. Il y avait à peine quelques journées que j'étais ici, où l'ennui m'avait poursuivi, où mon inclination à rompre avec la vie de plus en plus se décidait, au détour de la sombre et majestueuse cathédrale de Saint-Jean, j'aperçus une jeune fille qui se hâtait. Je crus reconnaître son air, je m'approchai. C'était Dinah. Cependant, je n'osais me l'affirmer ni l'accoster cavalièrement. Je la suivis à quelques pas en arrière, et l'appelant plusieurs fois à demi-voix, « Dinah, Dinah !» Elle se retourna et me salua sans me reconnaître. Je l'abordai tremblant. « Noble demoiselle, vous rappelez-vous, lui dis-je, ce jeune homme qui, à Avignon, sur le rempart, un soir de sérénade, adressa la parole à Messire votre père et que vous remerciâtes de son accortise. Ah, quoi, c'est vous ? Dit-elle émue, posant la main sur mon bras, le front rouge et baissé, fixant les dalles du pavé. Oh, belle Dina, que je suis heureux de vous rencontrer ! Oh, ne me repoussez pas ! Laissez-moi épancher tout ce qui s'est amassé de souffrance en mon cœur depuis l'heure où je vous vis, où je perdis tout repos. Vous avez fait jaillir en moi un amour subi, une passion violente. J'épiais la fin de la sérénade pour vous suivre jusqu'à votre demeure, dans l'espoir de pouvoir un jour vous avouer mon amour. J'attendais dans le trouble de l'heure du départ. Mais vous m'aviez si bien frappé au cœur que peu à peu je tombais dans une profonde cogitation. Et quand je m'éveillais, j'étais seul sur le rempart. Oh, je vous cherchais longtemps, je vaguais par la ville, sans succès. Désespéré, un ennui mortel s'était saisi de moi. Et vous le voyez, belle dame, j'étais venu le traîner ici. Oh, béni soit le ciel, si c'est lui qui me fait ce bonheur de vous revoir. Vous êtes Dina, maîtresse de ma vie, je suis à vos genoux. Si vous me repoussiez, vous me tueriez. Monsieur, il n'est pas bien qu'une jeune fille s'arrête ainsi à causer avec un cavalier. Ne me retenez pas, je vous prie. Calmez-vous. Voyez comme les passants nous regardent. De grâce, alors entrons dans cette sombre église. Là, sous une voûte noire, nous pourrons deviser d'amour loin des regards mauvais. Oh non, monsieur. Je ne puis entrer dans ce temple où demeure l'ennemi de mon Dieu. J'affligerais trop mon vieux père si jamais il l'apprenait. Mais quel est donc votre Dieu ? Le Dieu d'Israël. Oui, je l'avais deviné, car j'ai lu votre nom dans la Genèse. S'il en est ainsi, soyez ma sœur, permettez que je vous accompagne et nous parlerons. Je mets ma confiance en vous, monsieur. Depuis longtemps, habitez-vous Lyon ? J'y suis né, monsieur. Oui, votre beauté aurait dû me l'apprendre. Mais depuis quand quittâtes-vous Avignon ? Le lendemain que vous me vîtes à la sérénade. C'est peut-être mal d'être franche ainsi, mais je ne puis mentir. À votre vue, je me sentis touché et assailli d'un sentiment nouveau. Oh, je m'étais aperçu de votre trouble et j'interprétais votre courtoisie. Quand nous nous levâmes au départ, vous étiez debout, appuyé contre une palissade, et vous étiez tellement absorbé que nous passâmes près de vous et que mon père vous salua sans que vous l'aperçussiez. Je me retournai plusieurs fois en chemin et je ne vis personne. Oh, c'est peut-être méséant d'avouer tout cela, mais cependant, c'est la vérité. Votre souvenir m'agita toute la nuit. Je fis tous mes efforts pour retarder le départ de mon père, dans l'espoir de vous revoir aux sérénades, mais ce fut en vain. Mon père, qui fait le commerce des pierreries, était venu à Avignon pour affaire et le trouvait par elle impérieusement appelé à Lyon. J'ai bien souffert aussi depuis ce temps. La pauvre enfant essuyait quelques larmes. Et là, je ne pouvais me familiariser avec cette pensée qui me disait « Tu ne le reverras jamais ». Pourtant, je devais, dans quelques mois, retourner à Avignon et j'espérais. Oh, Dina, Dina, que je suis heureux! Oh, combien je vous aime! Oh, que votre esprit me plaît! Je vous adore! Croyez-moi, vous êtes ma Rachel, vous êtes mon bon ange visible! Dina, jusqu'alors vous m'apparut, j'étais passé fier et dédaigneux parmi les femmes. « J'embrase vos pieds. Oh, c'est tout ce que j'éprouve pour vous. Mais dites-moi donc votre joli nom que je vous nomme aussi. Aymar de Rochegude. Oh, c'est tout ce que j'éprouve pour vous, mon Aymar. C'est tout ce que je ressens et de l'amour. Croyez que j'en ai bien, de l'amour. »
Dans ces épanchements mutuels, nous arrivâmes au seuil de la maison de Dina. Alors, je lui demandai un rendez-vous prochain.
« Et pourquoi ?»
me dit-elle. « Pour vous voir et vous parler d'amour. »«
Emma, il n'est besoin de rendez-vous. Vous êtes un cavalier distingué. Vous m'aimez. Je crois bien que je vous aime. » « Venez chez mon père quand vous voudrez. Si vous désirez même, montons de suite. » Je dirai à mon père, « Voici venir le jeune cavalier qui vous parla un soir de sérénade sur le rempart d'Avignon. Le reconnaissez-vous? Je viens de le rencontrer, étranger en cette ville. Il m'aime beaucoup, je l'aime aussi. » Et mon père vous saluera et vous aimera pour l'amour de moi. »
Je montai. Ce bon vieillard, Judas, me reçut avec aménité et me présenta à sa compagne Léa. Et depuis ce temps, où il y a bien 10 mois, j'ai pour ainsi dire passé tous mes loisirs en sa maison. Mon amour pour Dina n'a fait que s'accroître par une infinité chaste et délicieuse, comblant de soins de tous égards possibles le vieux Judas qui me chérit. Et ça, Léa, qui me fait oublier ma mère que je perdis enfant. 4. Pluyas de Marcella. Comme la pluie en la toison et comme les gouttières dégouttantes sur la terre, la Bible. À ce moment, ils détournèrent une rue. Maître Bonaventure Chastelard dit alors au Chegude, baillez moins fort, je vous prie. « Vous faites un bruit à éveiller toute la ville et faire venir le guet. »« Ah, Seigneur Aymar, c'est que... »« c'est bon, consolez-vous, c'est fini. »« Et d'ailleurs, nous voici arrivés. »« C'est ici, la juiverie. »«
Jésus-Dieu, ici, la juiverie !» s'écria le vieux tabellion tout transi, faisant fort signe de croix.
« Oui, maître, c'est bien ici. » Voici là, à l'encoignure, cette belle maison à tourelles en trempillon, bâtie pour votre illustre compatriote, Philibert Delorme.
Philibert Delorme, un sorcier, n'est-ce pas, un astrologue? Hélas, monseigneur Aymar, je vous en prie, couvez-moi un peu de votre manteau. J'ai une peur d'enfer. Il me semble qu'il me choie quelque chose sur la tête. J'ai toujours ouï dire qu'il était périlleux de traverser la nuit les juiveries, qu'il pleuvait des chaudières et des matras, des chats noirs, des mandragores, des chauves-souris, des feux grégeois.
Oh, mais pouvez-vous bien, à votre âge, croire pareil baliverne? Un homme de loi, un docteur, mais vous faites pitié.
Maître Bonaventure, par mon honneur, je puis vous attester que si la nuit il pleut en ce quartier, à coup sûr, ce ne sont ni des mandragores, ni des chats noirs.
5. Maïel Nociar qui est seruat, celui qui trouve une bonne femme, il trouve un bien et puisera une liasse du Seigneur, la Bible. Le valet qui portait en avant le falot s'arrêta vers le milieu de la rue auprès d'une haute maison dont les croisées étaient vitrées tout bonnement de papier huilé, au 5e, 6e, 7e, 8e et 9e étage, sans doute occupées par des ouvriers en étoffe d'or et de soie qui recherchent un jour doux et pâle. La base d'entrée était basse et étroite. Aymar la dépassait de la tête. La porte de bois massif et dont le parement était découpé en losanges était ornée et consolidée par de larges clous, rivés à tête ronde comme une cuirasse de Milan. Un marmouset de cuivre ciselé pendait sur le milieu et servait de heurtoir. Et au-dessus du linteau de pierre, l'imposte à jour était armé de croisillons. Aymar de Rochegude heurta 2 fois le cul du marmouset sur la porte, et aussitôt on entendit au second étage un châssis grincé dans ses coulisses et une voix douce criait
C'est vous, Seigneur Aymar, je descends. »
La cage de l'escalier s'éclaira subitement, et la lumière descendant se reflétait par de grandes fenêtres obliques sur le mur vis-à-vis. La porte poussa un long gémissement et s'ouvrit. Dina apparut dans toute la splendeur, se dessinant sur le fond noir de l'allée, et vêtue d'une robe courte de brocatelle et, selon sa coutume, chargée de bijoux et de joyaux. Sa figure blanche rayonnait dans l'obscurité. On aurait dit l'ange de l'Annonciation. Sa petite main effilée portait un chandelier de fer à jour et tournait en spirale comme le serpentin d'un hermétique. Chastelard, en apercevant cette belle femme, stupéfait, ouvrit de grands yeux et recula de plusieurs pas, si grande est la puissance de la vénusté. Aymar s'approcha d'elle, lui prit la main et la baisa au front sur sa ferronnière.
« Vous venez tard, » dit-elle d'un ton aigre-doux.
« Oui, il est vrai, j'ai des regards retardés malgré moi. Ne me grondez pas, je vous prie. Je ne pouvais revenir, vous le savez, sans le notaire que voici. » À ce mot, Bonaventure Chastelard ôta son mortier et fit force salam alek au genou de Dina. Puis ils grimpèrent un petit escalier de pierre et vis-à-vis, en vis à l'aide d'une corde servant d'écuyer et luisante par le frottement, comme le reste d'une pertuisane. Durant la montée, Bonaventure tirait Aymar par son manteau et lui répétait à l'oreille
« Quelle est belle, cette hérétique! Oh, vous n'avez pas menti, Rochegude !»«
Mon père !» cria Dina joyeuse et du milieu du palier, « c'est Aymar et son notaire !»
Ils passèrent par une galerie en encorbellement sur la cour et entrèrent dans une grande salle éclairée par une girandole placée sur une torchée de bois doré. Les parois étaient couvertes de tentures en basane dorée, gaufrées et nervées comme le dos d'un livre. Au fond de la pièce, dans une vaste niche, un buffet de palissandre marqueté, incrusté d'ivoire et de nacre, couronné d'une tablette en marbre griotte de Suisse, creusée en coquille comme un bénitier, portait une urne épanchant de l'eau. Et à droite et à gauche, une grande cruche d'étain, ventrue comme une amphore et semblable à celle que portent encore aujourd'hui les servantes quand elles vont quérir de l'eau aux pompes publiques. Sur une des murailles était adossé un meuble vitré dont les rayons étaient chargés de sébiles de bois emplis de turquoise, d'améthyste, de béryl, d'onyx, de cornaline, de cabochon de rubis, d'émeraude, d'aventurine, de topaz, de sidoine, de diamant, de lapis, de marcassite, de camaïeu et de mille autres pierreries. Contre les verrières étaient suspendus quelques colliers de grenades d'ambre, de baroque, de corail, etc., etc., objet de négoce de Judas le lapidaire, qui, enfoncé dans son pourpoint noir et son fauteuil, devant une table couverte d'une tapisserie de Bergame, sur laquelle était posée une Bible in folio garnie de fermoirs, disait hautement et solennellement un passage de l'Exode. Léa, son épouse, vêtue de ses plus beaux atours, était à sa gauche. La peau brune de son cou et de ses mains se confondait presque avec sa robe de moire cape de mort. Ses cils et ses sourcils alezans, drus et longs, voilaient ses yeux qui étincelaient comme à travers un treillis. Son nez en bec de corbin formait un promontoire anguleux qui morcelait en deux lots la superficie de sa face en lames de coutelas. Mais, après tout, dans sa personne, il régnait un air digne et affable et le son de sa voix, doux et mielleflu, captivait. Non loin d'elle était un groupe d'hommes et de femmes, leur costume semi-oriental, leur tête caractéristique coiffée de turbans bâtards, sentaient fort la Mésopotamie. C'étaient les proches et alliés de Judas venus pour assister aux fiançailles et signer au contrat. Oh, je le sais s'ils étaient talmudistes ou caraïtes, mais en revanche, je puis affirmer qu'ils prétendaient appartenir, d'après la tradition de famille, à la tribu d'Aaron. Quand Tamar entra, ils s'inclinèrent et le saluèrent d'un « Dieu soit avec vous », auquel il répondit par un baise-main et, retirant son feutre et sa cape, « Pardon, mes bons parents, si vous ai fait attendre. C'est la faute du notaire, maître Bonaventure Chastelard, que j'ai l'honneur de vous présenter. Impérieusement forcé par mon père de retourner à Montélimar et de partir demain, sous menace d'exradération, comme vous n'ignorez pas, tout répit était impossible. « Judith, dit Judas à une servante qui se donnait à l'entrée, approchez maintenant cette table et cet escabeau, apportez une écritoire afin que monsieur le tabellion puisse entamer son ministère. » À la droite de son père, Dinah souriait d'intelligence avec un rejugut de l'embarras et de la mine panique de Bonaventure qui froissait un chapelet dans ses mains. Pour le rassurer, Rochegude l'étreignit violemment par le bras, feignant un air de douceur. « Bouvier stupide !» lui gronda-t-il à l'oreille, l'asseyant devant la table comme on assoirait un mannequin. « Si vous êtes prêt, monsieur le tabellion, vous pouvez commencer la lecture d'usage, » dit Judas. « Interrogez et nous répondrons. » « Monsieur, avec votre gendre, mon clerc a préparé la minute du contrat, » bégaya maître Bonaventure, tirant un parchemin de son carnet. « Je réclame l'attention, nous allons procéder à la lecture. Écoutez. Théodebert de Chantemerle, chevalier, seigneur de Rochecardon, Georges de Loup, et autres lieux, sénéchal de Lyon, savoir faisons que... Par devant les conseillers du roi, notaire à Lyon sous-signé, furent présents sieur Carloman, aymar de Rochegude à Lyon, où il habite, hôtel de la Cornemuse, rue des Quatre Chapeaux, paroisse Saint-Nizier, fils légitime de sieur Tiburce aymar, chevalier de Rochegude, habitant au lieu dit Dieu le fit, près Montélimar en Dauphiné, et de défunte Madeleine Garneau de Rémusat, près Nyon, époux à venir d'une part, et Mademoiselle Dinah, fille légitime d'Israël Judas de Tripoli, de Syrie, négociant lapidaire en cette ville, et de Dame Léa Baruch de Damas, demeurant auprès de ses pères et mères, domiciliée rue de la Juiverie, paroisse Saint-Paul, épouse à venir d'autre part. Lesquels, procédant l'époux futur comme majeur, libre et maître de ses droits, après trois sommations respectueuses et révérentielles faites à son père, et après décès de sa mère, dont et du tout il justifiera lors de la bénédiction nuptiale, et l'épouse future de l'autorité et agrément des dix seigneurs et dames, ses pères et mères, tous ici présents, ont promis de se prendre en vrai de légitime mariage et à cet effet de se présenter à l'église. Non, 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 monsieur Bonaventure, mettez s'il vous plaît à la synagogue, s'écria Rochegude. Oh, synagogue, au diable, si vous voulez, murmura le tabellion. Monsieur le notaire royal, vous êtes impoli et salissez votre ministère. Et à cet effet de se présenter à la synagogue pour y recevoir de la bénédiction nuptiale sur la première invitation de l'un à l'autre, en faveur duquel mariage le dixieur Israël Judas a donné et constitué en dot et avancement d'oirie à l'épouse future sa fille la somme de 15 000 écus,
qu'il a ce jour-là remis et délivré en denier et espèces du cours des mains du sieur époux futur, ainsi qu'il le reconnaît, dont en conséquence, tant lui que l'épouse future de lui autorisée se contente, quitte et remercie le sieur Israël Judas. En même faveur, l'épouse future s'est constituée en dot tous les autres biens et droits qui pourront, si après lui... c'est bon, maître Chasselas, passez outre, tout connaissons la terreur obligée. Alors, c'est cela, nous y sommes. Déclarant l'époux futur que ses biens présents, provenant de fins de sa fère, se composent premièrement de deux métairies et dépendances situées au lieu dit Rémusa, près Noyon, estimées et évaluées 20 000 livres. Secondement, d'une bâtisse sise au même lieu, jugé, évalué 32 000 livres. Troisièmement, d'une maison à location à l'enseigne du Bras d'Or, sise à Montélimar, prisée, évaluée 9 000 livres. Et en outre, d'une somme d'espèces n'excédant pas 500 pistoles. Et l'épouse future déclarant qu'elle n'en a pas d'autre que les 15 000 écus à celle-ci dessus constituée. Ainsi, convenu, réciproquement accepté et promis d'être observé à peine de tout dépend, dommages et intérêts, par obligation de biens, affectation, imposition de dot et accessoires, à la forme du droit à usage de cette ville, aux lois et usages qui s'y observent, les parties se soumettent et renoncent en conséquence expressément à toutes autres lois et coutumes qui peuvent y être contraires, soumissions, renonciations et clauses. Faites et passées au dit lion dans le domicile de Sieur Israël Judas sus désigné, après le vêpre le 28 juin 1661. En présence du Sieur Abraham Baruch, marchand mercier, frère d'Israël Judas et le Sieur Gédéon Tobie, parfumeur à Grasse en Provence, qui signeront ci-dessous avec les parties. Maintenant, veuillez approcher. Et signez-vous d'abord, monsieur Aymar de Rochegude, ensuite mademoiselle, vous ensuite, messieurs. » En ce moment, Judith la servante apportait sur la table deux énormes bassins remplis de dragées de fiançailles et plusieurs corbillons, coffrets et valises. Quand les parents et témoins eurent signé, maître Bonaventure, usant du droit et coutume, baisa sur les deux joues Dina, qui lui présentait un des bassins dans lequel, plongeant sa main croche, il retira une grosse provision de dragées. Dina et Aymar se jetèrent dans les bras de Léa et de Judas, qui pleuraient de joie, puis ils embrassèrent tous leurs alliés. Alors Judith promena les dragées devant l'assemblée, chacun y puisa sans cérémonie et à pleine main. Les deux époux offrirent aux femmes et filles d'Abraham, Baruch et de Tobie, leurs tantes, cousines et amies, des coffrets de bonbons et d'objets précieux de toilette dont ils leur faisaient gracieusement cadeau selon l'usage de la ville. La cérémonie achevée, les félicitations, les protestations d'amour et d'amitié éternelles faites, les beaux parents se levèrent pour se retirer. Il était tard. « Adieu, mes amis, leur dit Rochegude, adieu, mes bonnes amies. Je pars demain pour Montélimar, mon père m'y rappelle tyranniquement. J'espère le fléchir par des instances faites de vive voix à ses genoux. J'espère obtenir son consentement et peut-être revenir bientôt avec lui, célébrer comme il convient notre mariage et nos noces. À bientôt, que Dieu vous garde la santé du corps et de l'esprit. » Adieu, Seigneur Omar, adieu, mon ami, adieu, cousin, adieu, neveu, chanceuse, adieu. Vous, maître Bonaventure, attendez-moi, nous partirons ensemble. Mes bons pères et mères, dit alors Omar, comme je ne puis demain avec divin Dina faire nos visites de fiançailles, Vous voudrez bien m'excuser auprès de nos amis et leur faire parvenir les dragées et les présents qui leur sont destinés. Maintenant, il me reste à vous presser sur mon cœur, ainsi que ma Dinah, que j'aime tant. Ah, mais pourquoi faut-il que vous nous quittiez, Emma? Restez, restez encore quelques jours. Ne pleure pas, Dinah, je reviendrai bientôt, et je ne te quitterai plus à tout jamais. Non, reste, reste avec moi, j'ai de funestes pressentiments. Folie, ma chère enfant. Non, je ressens quelque chose de lointain, de douloureux, qui me fatigue. Oh, le ciel ne ment pas à ce point.
Console-toi, ma bonne fille, disait Judas à Caisse. Quelques jours d'attente. Songe à notre père Jacob, qui chez Laban, son oncle, attendit 7 années Rachel qu'il aimait. Injustement, au bout de 7 années, il ne l'obtint pas, et sans murmurer, il a attendu encore 7 autres années. Ce n'est qu'après 14 ans de désirs, de promesses et de labeurs qu'il reçut le prix de sa constance. Et courage, ma fille!
Courage, ma chère, répéta Léa, qui la tenait embrassée et la baisait, ses beaux yeux en larmes.
Mon père, dit Emma en s'agenouillant devant Judas, mon père, donnez-moi votre bénédiction. Judas, imposant alors ses deux mains sur la tête de son gendre, lut plusieurs passages de la Sainte Bible, récita plusieurs prières en hébreu, puis ajouta d'une voix haute:
Mon fils, je te bénis au nom du Dieu d'Israël, je te bénis comme Isaac et Ésaü. Que ta postérité soit nombreuse, que ta postérité soit un peuple, et que le Très-Haut Seigneur Dieu d'Israël habite en toi et ta postérité. Lève-toi, mon fils, tu ne dévieras point, car Dieu t'ombrera et marchera avec toi.
Emma pleurait. Il couvrit de baisers les mains et la barbe blanche de Judas, s'arracha des bras de Dinah et de Léa qui sanglotaient.
Emma n'y tenait plus.
Adieu, adieu. Partons, chasseur, vite, partons. Sur le quai, à la faveur du falot que portait le laquais, on vit briller quelques écus dans la main de Rochegude. Puis, à la fin du silence, on entendit s'échapper de l'escarcelle de Maître Bonaventure Chastelard un gros soupir syncopé argentin.